Le lendemain, Madame de Bargeton tâcha de se composer une mise du matin convenable pour aller voir sa cousine, Madame d'Espard. Il faisait légèrement froid. Elle ne trouva rien de mieux dans ses vieilleries d'Angoulême qu'une certaine robe de velours vert garnie d'une manière assez extravagante. De son côté, Lucien sentit la nécessité d'aller chercher son fameux habit bleu, car il avait pris en horreur sa maigre redingote et il voulait se montrer toujours bien mis en songeant qu'il pourrait rencontrer la marquise d'Espard ou aller chez elle à l'improviste. Il monta dans un fiacre afin de rapporter immédiatement son paquet. En 2 heures de temps, il dépensa 3 ou 4 francs, ce qui lui donna beaucoup à penser sur les proportions financières de la vie parisienne. Après être arrivé au superlatif de sa toilette, il vint rue Neuve du Luxembourg où, sur le pas de la porte, il rencontra Gentil en compagnie d'un chasseur magnifiquement emplumé. J'allais chez vous, monsieur. Madame m'envoie ce petit mot pour vous, dit Gentil qui ne connaissait pas les formules du respect parisien, habitué qu'il était à la bonhomie des mœurs provinciales. Le chasseur prit le poète pour un domestique. Lucien décacheta le billet par lequel il apprit que Madame de Bargeton passait la journée chez la marquise d'Espard et allait le soir à l'opéra. Mais elle disait à Lucien de s'y trouver. Sa cousine lui permettait de donner une place dans sa loge au jeune poète, à qui la marquise était enchantée de procurer ce plaisir. « Elle m'aime donc ! Mes craintes sont folles !» se dit Lucien. « Elle me présente à sa cousine dès ce soir !» Il bondit de joie et voulut passer joyeusement le temps qui le séparait de cette heureuse soirée. Il s'élança vers les Tuileries, en rêvant de s'y promener jusqu'à l'heure où il irait dîner chez Véry. Voilà Lucien, gabant, sautillant, léger de bonheur, qui débouche sur la terrasse des Feuillants, et la parcourt en examinant les promeneurs, les jolies femmes avec leurs adorateurs, les élégants, de par deux, bras dessus, bras dessous, se saluant les uns les autres par un coup d'œil en passant. Quelle différence de cette terrasse avec Beaulieu! Les oiseaux de ce magnifique perchoir étaient autrement jolis que ceux d'Angoulême. C'était tout le luxe de couleurs qui brille sur les familles ornithologiques des Indes ou de l'Amérique, comparé aux couleurs grises des oiseaux de l'Europe. Lucien passa 2 cruelles heures dans les Tuileries. Il y fit un violent retour sur lui-même et se jugea. D'abord, il ne vit pas un seul habit à ces jeunes élégants. S'il apercevait un homme en habit, c'était un vieillard, hors la loi, quelque pauvre diable, un rentier venu du marais, ou quelque garçon de bureau. Après avoir reconnu qu'il y avait une mise du matin et une mise du soir, le poète aux émotions vives, au regard pénétrant, reconnut la laideur de sa défroque, les défectuosités qui frappaient de ridicule son habit dont la coupe était passée de mode, dont le bleu était faux, dont le collet était outrageusement disgracieux, dont les basques de devant, trop longtemps portées, penchaient l'une vers l'autre. Les boutons avaient rougi, les plis dessinaient de fatales lignes blanches. Puis son gilet était trop court, et la façon si grotesquement provinciale que, pour le cacher, il boutonna brusquement son habit. Enfin, il ne voyait de pantalon de nankin qu'aux gens communs. Les gens comme il faut portaient de délicieuses étoffes de fantaisie, où le blanc toujours irréprochable. D'ailleurs, tous les pantalons étaient à sous-pieds, et Lucien se mariait très mal avec les talons de ses bottes, pour lesquels les bords de l'étoffe recroquevillée manifestaient une violente antipathie. Il avait une cravate blanche à bout brodée par sa sœur, qui, après en avoir vu de semblable à monsieur de Hautoy, à monsieur de Chandour, s'était empressé d'en faire de pareil à son frère. Non seulement personne, excepté les gens graves, quelques vieux financiers, quelques sévères administrateurs, ne portait de cravate blanche le matin. Mais encore, le pauvre Lucien lui passait de l'autre côté de la grille, sur le trottoir de la rue de Rivoli, un garçon épicier tenant un panier sur sa tête, et sur qui l'homme d'Angoulême surprit 2 bouts de cravate brodée par la main de quelques grisettes adorées. À cet aspect, Lucien a reçu un coup à la poitrine, à cet organe encore mal défini où se réfugie notre sensibilité, où, depuis qu'il existe des sentiments, les hommes portent la main dans les joies comme dans les douleurs excessives. Ne taxez pas ce récit de puérilité. Certes, pour les riches qui n'ont jamais connu ces sortes de souffrances, il se trouve ici quelque chose de mesquin et d'incroyable. Mais les angoisses des malheureux ne méritent pas moins d'attention que les crises qui révolutionnent la vie des puissants et des privilégiés de la Terre. Puis, ne se rencontre-t-il pas autant de douleurs de part et d'autre? La souffrance agrandit tout. Enfin, changez les termes. Au lieu d'un costume plus ou moins beau, mettez un ruban, une distinction, un titre. Ces apparentes petites choses n'ont-elles pas tourmenté de brillantes existences? La question du costume est d'ailleurs énorme chez ceux qui veulent paraître avoir ce qu'ils n'ont pas, car c'est souvent le meilleur moyen de le posséder plus tard. Lucien eut une sueur froide en pensant que le soir, il allait comparaître ainsi vêtu devant la marquise d'Espard, la parente d'un premier gentilhomme de la chambre du roi, devant une femme chez laquelle allaient des illustrations de tous les genres, des illustrations choisies. « J'ai l'air du fils d'un apothicaire, d'un vrai courte de boutique !» se dit-il à lui-même avec rage, en voyant passer les gracieux, les coquets, les élégants jeunes gens des familles du faubourg Saint-Germain, qui tous avaient une manière à eux qui les rendait tous semblables par la finesse des contours, par la noblesse de la tenue, par l'air du visage. Et tous différents par le cadre que chacun s'était choisi pour se faire valoir. Tous faisaient ressortir leurs avantages par une espèce de mise en scène que les jeunes gens entendent à Paris aussi bien que les femmes. Lucien tenait de sa mère les précieuses distinctions physiques dont les privilèges éclataient à ses yeux. Mais cet or était dans sa gangue et non mis en œuvre. Ses cheveux étaient mal coupés. Au lieu de maintenir sa figure haute par une souple baleine, il se sentait enseveli dans un vilain col de chemise. Et sa cravate, n'offrant pas de résistance, lui laissait pencher sa tête attristée. Quelle femme eût deviné ses jolis pieds dans la botte ignoble qu'il avait apportée d'Angoulême? Quel jeune homme eût envié sa jolie taille déguisée par le sac bleu qu'il avait cru jusqu'alors être un habit? Il voyait de ravissants boutons sur des chemises étincelantes de blancheur, la sienne était rousse. Tous les élégants gentilshommes étaient maintenant gantés, et il avait des gants de gendarme. Celui-ci badinait avec une canne délicieusement montée. Celui-là portait une chemise à poignets, retenue par de mignons boutons d'or. En parlant à une femme, l'un tordait une charmante cravache, et les plis abondants de son pantalon tacheté de quelques petites éclaboussures, ses éperons retentissants, sa petite redingote serrée, montrait qu'il allait remonter sur un des deux chevaux tenus par un tigre gros comme le poing. Un autre tirait de la poche de son gilet une montre plate comme une pièce de 100 sous et regardait l'heure en homme qui avait avancé ou manqué l'heure d'un rendez-vous. En regardant ces jolies bagatelles que Lucien ne soupçonnait pas, le monde des superfluités nécessaires lui apparut et il frissonna en pensant qu'il fallait un capital énorme pour exercer l'état de joli garçon. Plus il admirait ces jeunes gens à l'air heureux et dégagé, plus il avait conscience de son air étrange, l'air d'un homme qui ignore où aboutit le chemin qu'il suit, qui ne sait où se trouve le palais royal quand il y touche, et qui demande où est le Louvre à un passant qui répond « Vous y êtes ?» Lucien se voyait séparé de ce monde par un abîme. Il se demandait par quels moyens il pouvait le franchir, car il voulait être semblable à cette svelte et délicate jeunesse parisienne. Tous ces patriciens saluaient des femmes divinement mises et divinement belles. Des femmes pour lesquelles Lucien se serait fait hacher pour prix d'un seul baiser comme le page de la comtesse de Königsmark. Dans les ténèbres de sa mémoire, Louise, comparée à ses souveraines, se dessina comme une vieille femme. Il rencontra plusieurs de ces femmes dont on parlera dans l'histoire du XIXe siècle, de qui l'esprit, la beauté, les amours ne seront pas moins célèbres que celles des reines du temps passé. Il vit passer une fille sublime, Mademoiselle des Touches, si connue sous le nom de Camille Maupin, écrivain éminent, aussi grande par sa beauté que par un esprit supérieur, et dont le nom fut répété tout bas par les promeneurs et par les femmes. « Ah !» se dit-il, « voilà la poésie !» Qu'était Madame de Bargeton auprès de cet ange brillant de jeunesse, d'espoir, d'avenir, au doux sourire et dont l'œil noir était vaste comme le ciel, ardent comme le soleil? Elle riait en causant avec Madame Firmiani, l'une des plus charmantes femmes de Paris. Une voix lui cria bien « L'intelligence est le levier avec lequel on remue le monde !» Mais une autre voix lui cria que le point d'appui de l'intelligence était l'argent. Il ne voulut pas rester au milieu de ses ruines et sur le théâtre de sa défaite. Il prit la route du palais royal après l'avoir demandé car il ne connaissait pas encore la topographie de son quartier. Il entra chez Berry, commanda pour s'initier au plaisir de Paris un dîner qui le consola de son désespoir. Une bouteille de vin de Bordeaux, des huîtres d'Ostende, un poisson, une perdrix, un macaroni, des fruits furent le nec plus ultra de ses désirs. Il savoura cette petite débauche en pensant à faire preuve d'esprit ce soir auprès de la marquise d'Espard et à racheter la mesquinerie de son bizarre accoutrement par le déploiement de ses richesses intellectuelles. Il fut tiré de ses rêves par le total de la carte qui lui enleva les 50 francs avec lesquels il croyait aller fort loin dans Paris. Ce dîner coûtait un mois de son existence d'Angoulême. Aussi ferma-t-il respectueusement la porte de ce palais en pensant qu'il n'y remettrait jamais les pieds. Ève avait raison, se dit-il en s'en allant par la galerie de pierre chez lui pour y reprendre de l'argent. Les prix de Paris ne sont pas ceux de Lumeau.